Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage dans l'actualité de la semaine. Grâce au reportage des correspondants et des envoyés spéciaux de RFI, nous partirons ainsi pour la Grande-Bretagne, les États-Unis, la République démocratique du Congo par exemple, en France aussi où la crise sociale et politique des gilets jaunes a encore fait la une au début de la semaine. Écoutez d'ailleurs un court extrait de l'intervention télévisée très attendue du président de la République Emmanuel Macron lundi dernier avec d'abord un mea culpa.
Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Ma légitimité, je ne la tire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie. Je ne la tire que de vous.
Une semaine d'actualité donc. Ce samedi, nous sommes en compagnie de Magali Lafourcade, magistrate, secrétaire générale de la Commission consultative des droits de l'homme. Elle vient d'écrire un que sais-je passionnant sur les droits de l'homme, justement. Bonjour Magali Lafourcade.
Bonjour.
Vaste sujet que ce sujet des droits de l'homme. J'ai voulu que nous en parlions, on en parle quasiment chaque semaine, hein, des droits de l'homme, mais en creux. On parle surtout des violations, hélas, des droits de l'homme. Parce que là, cette semaine, il y a une actualité, ce sont les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme. C'était lundi. C'était le 10 décembre 1948, 10 décembre 2018, qui est le socle de tout défenseur des droits de l'homme aujourd'hui, cette
oui, tout à fait.
Toujours.
Oui, tout à fait. Ce texte est un texte absolument majeur, inaugural. C'est l'architecture en fait de l'ensemble du droit international des droits de l'homme, puisqu'ensuite, même s'il énonce un certain nombre de principes qui sont universellement consacrés, ensuite il a été décliné dans un ensemble de textes internationaux qui sont des instruments juridiques contraignants. Donc il est rentré vraiment dans le droit de chacun des pays.
Alors, il faut rappeler qu'un Français a participé à cette rédaction de cette déclaration, c'est René Cassin, en compagnie d'Eleanor Roosevelt aussi. Et je rappelle, rien que pour l'indiquer, le premier article de cette déclaration, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Je crois que ce que vous préférez, Magali, c'est le préambule de cette déclaration.
Oui, je suis très attachée au préambule, puisque le préambule révèle à la fois la singularité des circonstances de l'écriture de ce texte, puisqu'on est dans une période extrêmement difficile. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On a vu à quel point la souveraineté avait été la garantie mutuelle des tortionnaires et en fait avait été vraiment un moyen pour les États de ne pas d'être dans une faillite pour respecter le droit des personnes, de leurs ressortissants. Et donc on est à ce moment-là et en même temps ce texte essaye de proclamer de la manière la plus claire possible, comme idéal commun à tous les peuples, des valeurs universelles, intemporelles, qui se sont constituées dans l'histoire du monde, pas du tout de manière figée ou avec une origine occidentale, mais qui sont vraiment issues le produit de toutes les tragédies de l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est une réponse à ces tragédies-là.
Cette déclaration des droits de l'homme est publiée d'ailleurs dans votre que sais-je. Vous publiez aussi, juste avant, la déclaration des droits de l'homme de 1789.
Tout à fait.
Texte important aussi.
Oui, texte très important, puisque la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait comme vocation de parler au monde et de décrire les droits inhérents à la personne humaine pour un homme abstrait. Et il avait du coup vocation à trouver un écho dans le monde entier et il s'accommode très bien du coup de la philosophie du droit international des droits de l'homme. Pour autant, on ne peut pas dire que la France est la patrie des droits de l'homme puisqu'elle naît, elle est la patrie de la déclaration universelle, mais certainement pas des droits de l'homme.
On va en reparler, Magali. Lafourcade, une question avant de commencer à dérouler l'actualité de la semaine. Qu'est-ce que la Commission consultative des droits de l'homme ?
Alors, la Commission nationale consultative des droits de l'homme est une institution nationale des droits de l'homme au sens des Nations Unies. En 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution très importante qui s'appelle la résolution des principes de Paris, qui vise à créer, à demander aux États de créer dans chacun des États une institution qui sera totalement indépendante du gouvernement, avec une véritable expertise droits de l'homme pour pouvoir à la fois conseiller le gouvernement en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire, mais aussi contrôler le respect par les États de leurs engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Et on avait besoin de ces institutions au cœur du pays qui soient pluralistes, c'est-à-dire qui accueillent la société civile et des experts pour pouvoir en fait rendre compte et documenter les éventuelles violations des droits de l'homme et pouvoir fonctionner avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, puisque donc les droits de l'homme pour être protégé. On ne peut pas seulement demander aux États de le faire, il faut des mécanismes supranationaux.
Alors, commençons à parler de l'actualité et hélas de la violation des droits de l'homme. Magali Lafourcade, en recevant leur prix Nobel de la paix lundi, le Congolais Denis Mukwege et la Yézidi Nadia Mourad ont appelé à renoncer à l'indifférence et à protéger les victimes de violences sexuelles. Le gynécologue et l'Irakienne Yézidi, ex-esclave des djihadistes, devenue porte-drapeau de sa minorité, ont reçu en effet le prix des mains de la présidente du comité Nobel qui a salué deux des voix les plus puissantes du monde aujourd'hui contre l'oppression des femmes. Écoutez ce qu'a dit notamment dans son discours le docteur Mukwege.
Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice.
Une intervention très forte qui a été remarquée dans le monde entier, Magali Lafourcade. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme dit ceci: tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Sans nul doute, beaucoup de pays, beaucoup de populations ne connaissent pas cette situation.
Tout à fait. Donc en fait, les droits de l'homme sont universels, ils sont juridiquement consacrés. Il y a, grâce à cette consécration, il y a eu d'énormes progrès dans le monde qu'on ne peut pas nier, mais ils sont partout violés. Ils sont parfois de manière massive violés et il faut continuer à s'indigner puisque cela touche au sentiment d'injustice qui est universel. Et le docteur Mukwege a cette particularité qu'il se revendique lui-même comme un défenseur des droits de l'homme. Donc en fait, un défenseur des droits de l'homme, c'est un concept assez peu connu en France. C'est bien connu ailleurs. Par contre, ce sont ceux qui, par leurs actions et non pas par leur statut, défendent au quotidien et parfois au péril de leur vie, individuellement ou en groupe, les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il n'y a rien de plus concret que les droits de l'homme, dès lors qu'ils sont incarnés par des personnes qui, partout, et donc c'est universel, et c'est très vivant en fait, hein, ce sont des droits vivants, puisque les violations existent toujours, et donc il faut continuer ce combat pour l'effectivité des droits de l'homme. Et le docteur Mukwege est un homme qui est remarquable, et qui est particulièrement menacé. Il a subi plusieurs attentats, l'un de ses gardes du corps est mort.
Il vit sous haute protection,
il a une voiture blindée, il a des paravales, il a plusieurs gardes du corps en permanence, et son combat pour la dignité des femmes est absolument spectaculaire, remarquable et mérite bien sûr d'être salué.
Magali, droits de l'homme ou droits humains?
Alors ça, c'est un vaste débat qui occupe essentiellement la France.
Vous développez dans le livre, d'ailleurs.
Oui. Est-ce que donc ce débat fait couler beaucoup d'encre? Droits de l'homme avec un grand H, avec un petit H, c'est un peu toujours un peu compliqué. Droits humains est de plus en plus revendiqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un sens de l'histoire vers droits humains.
C'est-à-dire c'est plus global.
C'est plus voilà. L'idée de droits humains, c'est de continuer le combat des révolutionnaires français qui s'étaient attachés à droits de l'homme pour une visée encore plus universaliste, encore plus inclusive pour inclure les femmes et les enfants. Et en fait, ce débat qui achoppe sur des questions grammaticales ou même juridiques parfois est un petit peu curieux puisque donc il ne suscite aucune passion dans d'autres pays francophones, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse ou au Canada. C'est un sujet qui est simple. On parle des droits de la personne, on parle des droits humains, des droits de l'homme, avec ou sans H, sans passion. Et en France, il y a un argument qui est très fort, je trouve, qu'il faut respecter. C'est ce ceux qui considèrent que droit de l'homme permet d'avoir une fidélité à l'histoire, d'être fidèle à ceux qui ont perdu la vie pour ce combat. Et donc, pour rendre compte de ce courage-là, il faudrait garder ce terme. Mais les arguments sont tout à fait réversibles, puisque droits humains permettrait aussi d'aller plus loin dans ce combat des révolutionnaires français pour être plus inclusif. En tout cas, ce débat, il n'est pas idiot. Il permet de faire le point sur l'évolution d'un ordre social et la nécessité d'inclure davantage les femmes.
Sept jours dans le monde.
Et partons pour la Grande-Bretagne maintenant, Magali Lafourcade, où Theresa May, la Première Ministre, s'est imposée dans son camp lors d'un vote mercredi soir. Mais pour elle, l'avenir reste sombre. À Londres, Muriel Delcroix.
Theresa May reste à la tête de son parti, mais 117 de ses députés, un tiers d'entre eux, n'ont plus confiance en elle. Un résultat loin d'être confortable et qui porte un coup à son autorité. La dirigeante l'a échappé belle encore une fois, mais pour combien de temps? Certes, cette victoire est un camouflet pour ses détracteurs. Elle cloue le bec notamment au groupe de Brexiteurs radicaux qui étaient à la manœuvre pour déclencher ce vote de défiance. Selon les règles du parti, ils ne peuvent plus détrôner Theresa May pendant un an et vont désormais devoir mettre en sourdine leur récrimination et leur velléité d'imposer un Brexit sans accord. Mais si la dirigeante est débarrassée de ce caillou dans sa chaussure, il lui reste une épine beaucoup plus difficile à extraire. Un Parlement britannique vent debout contre son accord de sortie négocié avec Bruxelles, accord qui a toutes les chances d'être rejeté, même après la tournée européenne de la Première ministre pour tenter d'obtenir des concessions. Qui plus est, une autre menace demeure, celle d'un vote de défiance qui pourrait cette fois être déclenché contre le gouvernement dans son ensemble par les travailliste soutenu par d'autres partis d'opposition.
Et effectivement, Theresa May a demandé jeudi à Bruxelles de nouvelles garanties pour l'aider à obtenir la ratification de l'accord de Brexit par les députés britanniques, mais elle a fait face à des Européens ouvertement agacés par ses exigences à suivre dans nos points d'actualité. Il était proche de Donald Trump, il en est devenu un de ses principaux critiques. En tout cas, l'avocat Michael Cohen a été condamné à 3 ans de prison ferme pour l'avoir protégé à Washington.
Ma faiblesse est d'avoir eu une loyauté aveugle envers Donald Trump, a déclaré Michael Cohen juste avant que sa peine soit prononcée. Et dans une dernière charge contre celui qu'il a servi fidèlement pendant plus de 10 ans, l'ancien homme de confiance du président a ajouté « Je pensais qu'il était de mon devoir de couvrir les mauvais coups de Donald Trump plutôt que d'écouter ma conscience ». Michael Cohen a notamment été condamné pour avoir acheté le silence de 2 femmes qui affirment avoir eu une liaison avec le président. La transaction s'est déroulée en pleine campagne et est assimilée par la justice à du financement électoral illégal. L'ancien avocat du président a également reconnu avoir volontairement sous-estimé devant le Congrès les liens de l'équipe de campagne avec les Russes. Condamné à 3 ans de prison ferme, Michael Cohen pourra néanmoins passer les fêtes de Noël en famille. Le juge lui a accordé un délai jusqu'au 6 mars pour effectuer sa peine. Il pourra d'ici là continuer à coopérer avec le procureur Mueller qui enquête sur les ingérences russe dans la campagne de Donald Trump.
Sachez aussi dans l'actualité internationale que l'ONU a obtenu jeudi une trêve dans plusieurs régions dévastées du Yémen et notamment dans le port d'Hodeïda. Le pacte mondial pour, je cite, des migrations sûres, ordonnées et régulières a été approuvé lundi lors d'une conférence intergouvernementale organisée par l'Organisation des Nations Unies à Marrakech en présence de représentants de près de 160 pays. Il s'agit d'un texte qui fixe 23 objectifs pour, je cite, améliorer la coopération en matière de migrations internationales, accompagné de mécanismes de suivi des mesures à toutes les étapes. Un texte qui suscite des controverses et pas mal d'infox d'ailleurs. Écoutez ce que disait après la signature, Louise Arbour, la représentante spéciale de l'ONU pour les migrations.
Qu'est-ce qui va arriver après Marrakech? Après Marrakech, on s'attend à voir toute l'énergie qui a été mobilisée pour l'adoption de ce pacte commencer à le mettre en vigueur. Il y a des dispositions qui traitent de sujets qui sont sur la table depuis très longtemps. Par exemple, les efforts de réduire le coût des transferts d'argent que les travailleurs migrants renvoient dans leur pays d'origine. Comme vous le savez, les travailleurs migrants renvoient en moyenne à peu près 15% de leurs revenus dans leur pays d'origine, ce qui, de façon globale, l'an dernier représentait 650 milliards de dollars, trois fois plus que la totalité de l'aide officielle au développement. Et donc, la conférence de Marrakech, je pense, va générer beaucoup d'intérêt pour la mise en œuvre de certaines dispositions particulières où il y a un intérêt d'obtenir des résultats à court et moyen terme.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes cette semaine en compagnie de Magali Lafourcade, qui vient d'écrire Les droits de l'homme, un que sais-je, publié au PUF, donc, comme tous les que sais-je. Là, c'est un sujet fait pour vous, l'immigration, vaste sujet de défense des droits de l'homme, et je note que l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est au centre de notre émission aujourd'hui, dit ceci: toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Tout à fait. Donc cet article est très important. Il est très mal mené dans le monde. S'agissant du pacte de Marrakech, moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il s'agit d'un pacte fondamental qui est non contraignant et qui vise en fait à aider les États à réguler l'immigration.
Non contraignant est important.
Non contraignant est essentiel, mais il aide quand même. Enfin, il vise à améliorer la coopération en matière de migration internationale et à faire le lien entre ces migrations-là et les changements climatiques, qui sont la principale cause aujourd'hui de mouvement des populations. En fait, on a des statuts, les migrants économiques et puis les réfugiés de guerre, mais en réalité, les vulnérabilités liées au changement climatique poussent des personnes qui ne peuvent plus cultiver leurs terres à aller un peu plus loin, à se retrouver avec d'autres groupes avec qui ils doivent cohabiter alors qu'ils partagent pas la même culture, les mêmes intérêts, etc., avec une raréfaction des ressources. Et face à ces cohabitations obligées, on peut se retrouver avec des conflits, des tensions très fortes, des guerres. Et donc, les concepts migrants économiques, migrants réfugiés de guerre et migrants climatiques, un terme journalistique, sont devenus extrêmement poreuses. Et je tiens à dire que j'étais très choquée par tout ce qu'on a pu entendre, y compris par des responsables politiques français, qui sont vraiment des fake news sur le contenu du pacte de Marrakech. En fait, cela souligne une chose, c'est qu'y compris en France, l'immigrant et tous ceux qui les défendent, qui défendent leurs droits, sont les victimes d'une parole publique dans tous les États du monde, y compris dans les États avancés.
Alors, dans votre livre, Magali Lafourcade, vous avez un chapitre très intéressant sur l'universalité de cette déclaration, déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi la régionalisation, en quelque sorte, de ces droits de l'homme dans toutes les grandes parties du monde. Et on va revenir tout à l'heure sur l'Afrique, mais vous revenez aussi sur la conception des droits de l'homme en Amérique, sur le continent américain, dans le monde arabe. Ça menace, en fait, cette déclaration des droits de l'homme universelle.
Oui, c'est-à-dire que la déclaration est universelle, et je suis fondamentalement convaincue, et nous sommes nombreux à le penser, que quand on voit toutes ces personnes qui se mobilisent pour défendre les droits de l'homme, le texte est toujours universel, puisque face aux violations, le sentiment d'indignation est toujours présent et extrêmement partagé. Ce qu'on doit pouvoir en dire, c'est que il n'est pas un être sur cette terre qui ne revendique la reconnaissance de cette dignité. Et les droits de l'homme sont un filet minimal de protection pour assurer cette dignité, cette concrétisation de la dignité. On n'est pas sur l'ensemble des droits, on est sur ce filet minimal de protection. À partir de là, on voit que dans les régions, quand il a fallu faire face à la polarisation du monde pendant la guerre froide, donc au moment où on voulait que les principes déclinés dans la déclaration universelle soient transposés dans des instruments juridiques contraignants, donc entre 1948 et 1966, où les deux pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés, dans cette période-là, la régionalisation des droits de l'homme est devenu un vecteur d'universalisation et de transposition dans le droit dur. Et en Europe, ça s'est extrêmement bien passé. Dans les Amériques, ça s'est plutôt bien passé aussi, même si la fragilité économique et la fragilité politique de l'Amérique du Sud rend la lutte contre l'impunité très difficile. Mais alors, on a vu que dans d'autres régions, c'était beaucoup plus compliqué.
Dans le monde arabe, notamment.
Alors, dans le monde arabe, il y a eu des déclarations qui ont été adoptées ces dernières décennies, qui, par certains aspects, sont en rupture avec l'universalité, soit parce qu'elles considèrent considère que les droits de l'homme doivent être subordonnés au principe éternel de l'islam, ce qui n'est pas du tout le principe, enfin, de la pensée universelle des droits de l'homme, qui les place au-dessus de toute autre considération, soit parce que elle prévoit comme dans la charte arabe des droits de l'homme et des peuples qui a été adoptée en 2004 à Tunis, qu'il soit possible de contrevenir à la convention sur les droits de l'enfant en prévoyant la peine de mort pour les mineurs, ou encore de parler de faire référence à l'égalité entre les femmes et les hommes au regard de la charia, c'est-à-dire en évoquant la discrimination positive instituée au profit de la femme par la charia islamique. Alors bien sûr, ça c'est incompatible avec l'égalité entre les femmes et les hommes proclamée par tous les instruments juridiques des droits de l'homme qui sont contraignants.
Une semaine d'actualité.
Et l'actualité en France, maintenant, Magali Lafourcade. Nous allons parler des gilets jaunes dans un instant, mais il nous faut revenir sur l'attentat de Strasbourg. Auparavant, un homme, Chérif Chekat, a tué 3 personnes avant de s'enfuir. La ville, qui accueille chaque année à la même époque un beau marché de Noël, était sous le choc. Reportage mercredi de Domitille Piron.
Dans la rue des Orfèvres, ornée de ses décorations de Noël, le silence du recueillement pèse. Cécile habite cette même rue. Mardi soir, elle a donc vécu la fusillade au plus près.
Là, on réalise vraiment, et j'ai l'impression que c'est très pesant. En se baladant, là, c'est pesant. Il y a une atmosphère un peu spéciale.
24 heures après l'attaque, les cloches de la cathédrale ont sonné durant de longues minutes et de nombreux Strasbourgeois se sont rassemblés sur la place Kléber où le grand sapin était éteint. Céline y était.
Je suis passée pour rentrer chez moi tout simplement et puis j'ai vu les bougies, alors je suis sortie du tram et je voulais commémorer aussi à ma façon. Ça me fait du bien d'être entourée d'autres gens qui sont là juste et qui se recueillent en silence.
En silence et aussi en chanson, un jeune homme a chanté durant plusieurs heures dans le froid devant la statue de l'homme de fer, où l'on retrouve également plusieurs dizaines de roses blanches et des centaines de bougies. Emeline est venue en allumer avec son fils Nathan.
Bah pour sortir aujourd'hui, pour affronter la sortie de la maison avant demain.
Tu veux m'expliquer peut-être ce que tu as fait ce soir ?
Rendre hommage aux morts.
Tu as compris ce qui s'était passé hier ?
Il y a un méchant qui est venu et qui a tué des personnes.
Cette fusillade de mardi soir a définitivement frappé au cœur de la capitale alsacienne et de ses habitants. Domitille Piron, Strasbourg, RFI.
Et Chérif Chekat, traqué par des centaines de policiers pendant 2 jours, a finalement été abattu jeudi soir par les forces de l'ordre à Strasbourg. Suite d'une semaine d'actualité, là c'est un autre vaste sujet, Magali Lafourcade. Qu'est-ce que les droits de l'homme deviennent face au terrorisme? Et vous traitez évidemment dans votre livre, et vous citez d'ailleurs une prophétie de Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Donc, pour les droits de l'homme, il est délicat de lutter contre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme, non ?
Tout à fait, c'est vraiment un sujet extrêmement sensible et qu'on voit depuis des décennies monter. C'est-à-dire que il y a dans la lutte contre le terrorisme un besoin naturel et tout à fait légitime de protection. Et on voit.
C'est reconnu dans la déclaration des droits de l'homme, la protection.
Alors oui, la protection, bien sûr. Simplement, il y a souvent un amalgame, une confusion qui est faite entre le droit à la sûreté, qui vous assure à vous en tant qu'individu le fait de ne pas être soumis à une détention arbitraire, donc c'est un droit qui est défini contre l'État, et donc le droit à la liberté. Et donc la tension entre liberté et sécurité normalement est faite pour assurer le primat de la liberté sur la sécurité, et la sécurité est pensée pour vous permettre un exercice paisible de vos libertés. Donc la sécurité, c'est cet ensemble qui fait partie de l'ordre public pour vous assurer la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifester.
Et de faire des émissions de radio.
Mais quand on arrive à une tension entre liberté et sécurité aussi forte au moment de la lutte contre le terrorisme, on a vite un glissement dans le discours politique qui est de faire de la sécurité un droit de l'homme au même titre ou à égalité avec la liberté, voire même à passer au-dessus. Et donc ce que nous, à la CNCDH, on a pu dénoncer, c'est que ce climat très très anxiogène, à juste titre, hein, du terrorisme, a pu ensuite être récupéré par un certain nombre de populistes qui demandent des mesures qui sont totalement contraires à l'état de droit. Or, ce qui est très clair pour nous, c'est que le curseur des libertés ne doit jamais bouger. Parce que si le curseur des libertés bouge, il bouge toujours dans le même sens, c'est-à-dire en faveur de plus de sécurité.
Alors justement, parmi ces polémiques, il y en a une qui a ressurgi ces dernières heures sur les fichiers S, les personnes fichées S pour sûreté de l'État, S. Faut-il les emprisonner, les expulser ? Ou faut-il attendre qu'ils aient commis un nouvel attentat, un attentat pour les arrêter?
Alors,
c'est
bien
une
sûr.
Question qui, une question qui ressurgit périodiquement, après chaque attentat.
Oui, alors c'est une réaction qui peut se comprendre. Cela dit, quand on analyse les choses avec un peu de distance et un peu de calme, on s'aperçoit que on ne peut pas tout le temps être dans ce glissement qui est déjà là, hein, qui est déjà, l'état d'urgence l'a déjà opéré, qui est, au lieu de se baser sur un commencement d'exécution d'une infraction ou une exécution d'infraction, bien sûr, il ne faut pas attendre les attentats pour pouvoir réagir. Mais dans notre droit, et bien avant l'état d'urgence, on avait l'association de malfaiteurs, on avait l'entreprise terroriste, l'association en vue de commettre une entreprise terroriste. Donc on avait des outils juridiques qui permettaient d'interpeller les gens dès qu'on avait des indices suffisamment étayés pour pouvoir aller les interpeller. Et on est maintenant passé à ce qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi, où on a des modèles prédictifs de dangerosité basés sur des comportements ou des impressions autour de comportements, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin d'avoir des éléments de preuve en dur qui permettent de vérifier qu'il y a un passage à l'acte. Et donc on a glissé de la preuve à une anticipation de dangerosité, et ça c'est très inquiétant pour l'état de droit. Et donc on ne peut pas incarcérer les gens juste parce que on a une impression qui se dégage de leur comportement.
Et d'ailleurs le débat a ressurgi, on va parler des gilets jaunes dans un instant, Magali Lafourcade, avant les manifestations de la semaine dernière où la police a procédé à des arrestations avant même les manifestations, au motif que, selon certains policiers, les individus arrêtés étaient dangereux. Vous voulez manifester de façon violente.
Alors, il y avait l'utilisation d'une infraction qui avait été, il me semble, définie dans la loi en 2010, et qui était la participation à un groupement qui pourrait commettre des violences. Mmh. Donc, c'était une infraction qui n'avait pas forcément été définie pour s'appliquer à ce type de situation et qui a ressurgi pour pouvoir permettre ces arrestations, ces interpellations. La presse a parlé d'interpellation préventive. En fait, c'était pas tout à fait ça. On est dans le cadre de la légalité, mais avec des notions qui sont devenues très floues, où on peut arriver à interpeller les gens juste parce qu'ils ont un masque anti-pollution ou parce qu'ils ont une raquette de tennis. Donc tout cela pose un problème en fait de proportionnalité.
Ouais. Alors donc lundi soir, Emmanuel Macron, toujours à propos des gilets jaunes, a donc tenté d'apaiser leur colère dans une intervention télévisée. Il faut y revenir. Anthony Latier.
La voix est grave, le ton est solennel. Emmanuel Macron envoie un message d'empathie aux gilets jaunes.
Cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards.
Une colère aussi dirigée contre sa personne, le président le reconnaît.
Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos.
Sous pression, Emmanuel Macron fait un geste pour les salariés modestes. Dès l'an prochain, coup de pouce de 100 euros pour le salaire minimum. Geste aussi pour les retraités modestes. Annulation de l'une de ses mesures phares, l'augmentation de la CSG.
L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste.
En revanche, l'impôt de solidarité sur la fortune ne sera pas rétabli.
Revenir en arrière nous affaiblirait, alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs.
Le chef de l'État ouvre plusieurs chantiers sur la fiscalité, sur l'immigration et sur la représentation.
La possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis.
Mon seul souci, c'est vous, conclut Emmanuel Macron, qui promet de revenir rendre compte devant les Français.
Simon Rosé a suivi cette intervention présidentielle avec des gilets jaunes à Senlis. Écoutons son reportage.
Jeune et au moins jeune, ce qu'il faut pour vivre libre.
Du violon quand même.
Du violon. Thierry secoue la tête en écoutant Emmanuel Macron. Gilet jaune sur les épaules, à côté du brasero, ils sont une petite dizaine comme lui à écouter le chef de l'État et à être déçus.
Bon, ce sont des mesurettes. En gros, c'est pour qu'on rentre chez nous avant les fêtes. mais on va rester.
Dominique aussi va rester. C'est le contraire qui aurait été étonnant. En fait, cette sexagénaire n'avait aucun espoir avant l'allocution d'Emmanuel Macron, qui arrive bien trop tard à ses yeux.
Il aurait pris la parole tout de suite, dès le début du mouvement, machin. Je pense que ça aurait pu peut-être changer quelque chose. Donc je pense qu'il est mal, très mal. Moi, je serais à sa place, je démissionnerais, hein, direct. Il se fait plus de tort qu'autre chose. Et du tort à la France, en plus.
Autour d'elle, tout le monde acquiesce et se prépare donc à passer une nouvelle nuit sur le rond-point. Cela fait 2 semaines que Rachel y dort tous les soirs.
On a de quoi tenir et on est là et je pense qu'on est tous, on est tous chauds encore. Voilà, malgré qu'on soit fatigué, on va travailler, on est fatigué, mais on est là et on lâchera rien. C'est vrai ou pas?
Ah oui.
Voilà.
Et pour preuve, dans le Barnum installé sur le rond-point, il y a un petit sapin de Noël décoré et les gilets jaunes entendent bien réveillonner à côté s'il le faut.
Et il y aura de nouvelles manifestations de gilets jaunes aujourd'hui, samedi, suite d'une semaine d'actualité, Magali Lafourcade. Ces manifestations ont entraîné une intervention, bien évidemment, des forces de l'ordre, dans les conditions que l'on sait, avec des violences très 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 fortes. Mais plusieurs syndicats de journalistes, quasiment tous les syndicats de journalistes, ont pris position contre ce qu'ils appellent des dérapages inadmissibles de la police envers les journalistes. Vous avez eu vent, vous, de ces protestations?
Bien sûr, j'ai été en contact avec plusieurs journalistes qui m'ont fait part de ce qu'ils avaient pu constater. Il faut rappeler que l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques protège la liberté d'expression, la liberté d'information. Et je trouve que là, on a quand même documenté beaucoup de dérapages, puisqu'il y a eu du matériel confisqué. Bon, ça, on peut dire, c'est que l'atteinte au bien, mais ça empêche les journalistes de faire leur métier. Mais il y a eu aussi des blessés, des journalistes qui disent avoir été pris pour cible, avec parfois des blessures sérieuses, graves. Et donc, pour cet ensemble de dérapages, je crois qu'on aurait attendu une expression politique beaucoup plus claire de condamnation, puisque dans un état de droit, il faut rappeler les principes, hein, et il faut bien signaler que il est inadmissible de prendre pour cible des journalistes qui font leur travail, ou de laisser entendre que si on veut assurer la sécurité des journalistes, il faut que ceux-ci se mettent derrière les forces de l'ordre, puisque le journaliste doit être au cœur de l'action.
Alors, il y a une autre petite chose qui vous a agacé, pour ne pas dire plus, Magali Lafourcade, cette semaine, c'est la présentation de ce que le Quai d'Orsay appelle la stratégie internationale de la France en matière de droits de l'homme. Et quelque chose vous a fait tiquer dans cette stratégie?
Alors, cette stratégie, nous, on l'a appelée de nos voeux depuis extrêmement longtemps, de manière constante, et on est très heureux qu'elle existe. D'ailleurs, on a été consulté sur l'avant-projet de stratégie internationale de la France pour les droits de l'homme. Et c'est vrai que la France a une vraie diplomatie des droits de l'homme. Elle promeut des thèmes clés comme la lutte contre l'impunité, la lutte contre la peine de mort, la lutte contre la torture. Mmh. Ce qui était plus perturbant, finalement, c'est ce que nous appelons l'impératif de cohérence interne-externe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prôner à l'extérieur des choses que vous appliquez pas vraiment sérieusement dans le pays concerné. Quand la France parle de la lutte contre la traite des êtres humains, nous à la CNCDH, on est rapporteur national sur la traite des êtres humains et on constate que ça fait 2 ans que nous, la société civile et la communauté internationale demandent à la France de prendre un plan national d'action sur ce sujet-là et rien ne se passe. Il faut quand même pouvoir le dire. Ce qui nous a heurté ce jour-là, je dois dire que c'était parce qu'on était aux 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on était aux 20 ans la célébration des 20 ans de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, donc ceux qui au quotidien sont en première ligne pour défendre ce texte-là, et on avait le matin la remise du prix de la République française, le prix des droits de l'homme de la République française.
Alors il faut en dire un mot parce qu'il s'est passé un incident qui peut paraître, qui suscite des commentaires
qui
en tout cas.
Qui suscite beaucoup de commentaires.
Alors
en
vous
tout
donc,
cas,
en tant que secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, vous avez décerné, comme vous le faites chaque année, je crois depuis 30 ans, un prix. Que s'est-il passé?
Voilà, donc c'est le jury de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui décide des lauréats. Il le fait de manière très sérieuse, avec un avis des postes diplomatiques. Donc le thème de l'année, bien sûr, c'était les défenseurs des droits de l'homme. C'était les 30 ans du prix de la République française. Et c'est un prix qui a un rayonnement international absolument majeur. Et je trouve que ça fait très mauvais effet que nous n'ayons pas eu d'autorité politique pour remettre remettre le prix puisqu'il devait être remis par la ministre de la Justice. Et j'étais informée vendredi, alors que le prix était remis lundi matin, qu'elle ne pouvait pas, elle était retenue à une réunion à Matignon le lundi. Donc j'ai bien sûr demandé quel serait le ministre ou le secrétaire d'État qui assurait le prix des droits de l'homme, et personne n'a pu être dépêché ce jour-là. Et c'est l'ambassadeur aux droits de l'homme qui a pu remettre le prix. Donc il y avait une représentation de l'État, mais pas à un niveau politique, et c'était la deuxième fois en 30 ans que cela arrive.
Et il faut dire qui étaient les lauréats.
Donc
pour
les lauréats,
bien comprendre le contexte.
Oui, donc nous avions 5 lauréats, et parmi les lauréats, il y avait Alak et Betselem, qui sont une association palestinienne et une association israélienne qui œuvrent pour la paix entre ces deux peuples et qui dénoncent les exactions qui peuvent être commises, les violations des droits de l'homme qui peuvent être commises de part et d'autre. Et elles ont fait l'objet d'une campagne de dénigrement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, comme souvent les défenseurs des droits de l'homme, malheureusement. Le propre des États, c'est d'essayer de les faire passer pour des amis des terroristes, pour des agents de l'anti-progrès ou pour des fauteurs de troubles.
Ça, c'est les pressions exercées par Israël.
Donc, il y a eu des pressions qui ont été exercées. En tout cas, la presse en est fait largement l'écho. Oui. Et surtout, moi, j'ai été marquée par l'impact international de cette action du gouvernement de ne pas remettre le prix, puisque, en tout cas, de l'autorité politique de ne pas remettre le prix, puisque j'ai été contactée par beaucoup de mes homologues, puisque les institutions nationales des droits de l'homme, il en existe 130 dans le monde. Et que nous sommes tous en réseau, et beaucoup m'ont demandé ce qui s'était passé, et il a fallu dire que voilà, nous n'avions pas d'autorité politique. Et le jour des 70 ans, c'était tellement dommage, parce qu'en plus, dans la stratégie annoncée par le gouvernement français, il est fait état d'une volonté de travailler pour protéger les défenseurs des droits de l'homme contre justement toutes ces attaques.
Ça tombe mal.
Ça tombe mal, et d'autant qu'en plus, la semaine prochaine, il y a une réunion de haut niveau qui est prévue avec le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Guterres, à l'ONU, à New York, et les pays qui sont les plus en ligne sur les droits de l'homme se mobilisent pour envoyer des ministres. À ma connaissance, la France n'a pas décidé d'envoyer un ministre ou d'être représenté à ce niveau-là dans cette réunion-là. Et c'est dommage, puisque la France, en fait, souhaite revenir au Conseil des droits de l'homme. Et pour être élu au Conseil des droits de l'homme, il vaut mieux pouvoir montrer qu'on est allant sur la thématique.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages et un salut à quelques auditeurs africains. Bonjour à Roland à Yaoundé, Fousseni à Lomé, bonjour à Babacar à Dakar, à Casimir à Bamako, ainsi qu'à Mam qui est journaliste au Mali. Enfin bonjour à Mokhtar qui nous écoute à Richard Toll au nord du Sénégal. Il nous écrit ceci, Mokhtar. En langue wolof, il y a un proverbe qui dit « Inutile de se bousculer pour scruter le ciel, car celui-ci est assez vaste pour que tout le monde le scrute en même temps. Je dirais qu'il est également inutile de se bousculer pour écouter RFI. Il suffit juste de capter sa fréquence pour que le monde s'ouvre à vous. La mienne est 94.3 FM à Richard Toll. Merci Mokhtar. »
Une semaine d'actualité.
Partons pour la RDC, Magali Lafourcade, mais écoutons d'abord un autre passage du discours du docteur Denis Mukwege, qui a donc, avec Nadia Mourad, ancienne otage yézidi de l'organisation État islamique, reçu le prix Nobel de la paix, dans lequel il évoque la douloureuse question des viols et des massacres dans son pays, faute d'État de droit.
Ce qui s'est passé à Kavumu et qui continue aujourd'hui dans de nombreux autres villages au Congo, tels que les viols et les massacres à Beni, et au Kassai, a été rendu possible par l'absence d'un état de droit. L'effondrement des valeurs traditionnelles et le règne de l'impunité, en particulier pour les personnes au pouvoir. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ces chaos pervers et organisés a été des centaines de milliers de femmes violées. Plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines.
Alors justement, Magali Lafourcade, en RDC, il y a du nouveau dans le dossier des femmes et enfants détenus selon l'ONU depuis avril 2017 dans le Kassai et qui seraient otages sexuels pour la plupart des milices Banamoura qui sévissent dans le territoire de Kamonia et sont réputées proches de certaines autorités locales et officiers de l'armée congolaise. En août dernier, la ministre des Droits humains avait nié le phénomène au micro de RFI d'ailleurs, mais depuis, dans la plus grande discrétion, 38 personnes ont déjà été entendues dans ce dossier par la justice militaire à Kananga. C'était le mois dernier. Correspondance de Florence Maurice.
C'est l'aboutissement de pressions exercées depuis des mois par les Nations Unies dans ce dossier. Parmi les personnes entendues par l'auditeur supérieur militaire de l'ex-Kassaï occidental, des témoins et des victimes, parmi lesquels 22 femmes et 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons âgés de 14 à 15 ans selon des sources proches du dossier. Une avancée importante si l'on se souvient qu'en août dernier, la ministre des Droits humains avait nié le phénomène au micro de RFI, assurant que la MONUSCO ne lui avait fourni aucune information de nature à prouver l'existence des victimes, version contestée par l'ONU à l'époque, qui dans la foulée a donc débloqué des fonds pour permettre à la justice militaire d'entendre des rescapés. À cette occasion, toujours de sources proches du dossier, plusieurs femmes victimes ont porté plainte devant l'auditorat. Plusieurs auraient également cité le nom du chef traditionnel Mouyège, considéré comme l'instigateur des Banamoura et épinglé dans plusieurs rapports comme l'un des principaux supplétifs de l'armée. Quelle suite sera donnée? Une instruction sera-t-elle ouverte? C'est toute la question désormais. De sources judiciaires, en tout cas, l'audition du chef Mouyège n'est pas à l'ordre du jour. C'est prématuré, explique cette source, qui promet toutefois que d'autres témoins seront entendus. La ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchot-Bécois, dit avoir été informée de ces auditions, mais restée sceptique sur l'existence du phénomène, sans plus de précision.
À suivre, bien sûr. Dans nos journaux, restons en RDC pour revenir sur le climat politique qui s'est passablement tendu à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, le 23 décembre prochain. Il y a eu des morts et il faut aussi noter l'incendie à Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi du grand dépôt de la CENI où était déposé 80% du matériel électoral destiné à la capitale et à sa province. Ce sinistre a suscité beaucoup de réactions. Écoutez par exemple celle de Stéphanie Solters, elle est spécialiste de la RDC à l'Institut des études de sécurité ISS, basé en Afrique du Sud. Elle a été interrogée par Sonia Rollet.
C'est inquiétant d'abord parce qu'il y a eu la destruction d'un important lot de matériel dont on a besoin à Kinshasa pour tenir les élections. Donc ça peut en fait entraîner des délais par rapport à la distribution du matériel. C'est d'abord ça, mais c'est aussi le fait que dans le climat actuel où la situation est tellement tendue, où on voit des violences partout, on a des campagnes et des opposants surtout, il y a tellement peu de confiance dans le processus que tout de suite, des deux côtés, on se jette des accusations. Il y a Kikaya Benkarubit qui jette la blâme sur les opposants et il y a les opposants qui disent que c'est quelque chose qui a été orchestré par le gouvernement. Il faut dire que le dépôt se trouve au plein centre de Kinshasa. Donc, c'est très difficile à comprendre comment, si vraiment c'était quelque chose de criminel, si c'était pas un accident. Il y a une sécurité autour de ça, c'est pas loin d'un camp militaire, et voilà. Donc il y a beaucoup de questions à se poser, comment ça a pu se passer comme ça?
Sachez aussi que les États-Unis veulent contrer les comportements prédateurs, dit Washington, de Pékin et Moscou en Afrique, durcir les conditions d'obtention de leurs prêts dans une stratégie africaine de Donald Trump dévoilée jeudi. Les États-Unis veulent aussi mettre fin aux aides financières et aux missions de paix de l'ONU jugées inefficaces. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Magali Lafourcade. Là, nous avons, si j'ose dire, un cas d'école de violation des droits de l'homme et notamment du droit des femmes en République démocratique du Congo.
Oui, je crois qu'il faut souligner que à chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, c'est des femmes qui payent le plus lourd tribut. Si on se demande quel est l'homme qui est le plus pauvre du monde, ce sera une femme enceinte avec son dernier né porté sur son dos et donc le futur bébé dans le ventre et qui sera en train de travailler dur. Donc les viols comme arme de guerre, des viols d'une cruauté extrême, ça n'a rien de sexuel. Quand on voit des femmes violées ou des femmes sur qui on a tiré un coup de feu dans les organes génitaux.
Et Florence Maurice, notre correspondante à Kinshasa, nous a envoyé cette semaine des reportages particulièrement saisissants de femmes, des portraits de femmes meurtries véritablement par ça.
Voilà, donc face à cela, je crois qu'il est très important que la communauté internationale soit claire sur ce que dit le docteur Mukwege aussi, à savoir les féminicides, parce qu'il parle du nombre de femmes mortes. L'OMS recense très bien les féminicides, elle catégorise les féminicides. féminicide, et il y a encore beaucoup d'États, y compris la France, qui reconnaissent pas le féminicide comme tel, alors que c'est une réalité. Et toujours, pour lutter contre un phénomène, contre une violation grave des droits fondamentaux, il faut d'abord l'identifier, le connaître, et ensuite organiser le droit pour pouvoir se défendre contre cette violation majeure.
Il faut avoir une pensée pour les militants des droits de l'homme en République démocratique du Congo, en ce moment même,
dans un
climat politique tendu, passablement.
Exactement. Il y a la présidentielle qui se dessine. Il y a eu aussi tout le sujet de la Cour pénale internationale concernant M. Bamba. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments pour les défenseurs des droits de l'homme qui essayent de faire au mieux dans ce pays qui est un immense pays, très riche, avec beaucoup d'atouts et pourtant beaucoup, beaucoup de tensions et de violences.
Alors Magali de Lafourcade, dans cet universalisme des droits de l'homme, il y a donc cette régionalisation. Je reviens à cette question qu'on a déjà abordée tout à l'heure. On a parlé du monde arabe, vous nous avez parlé du monde arabe, mais il nous faut parler du système africain de protection. Et là, vous notez qu'en Afrique, il y a une importance particulière donnée aux droits, ce qu'on appelle les droits collectifs. Ça veut dire quoi ?
Alors, les droits collectifs, ce sont des droits qui concernent des peuples. Et pendant longtemps, on a considéré que c'était pas vraiment des droits, qu'ils n'étaient pas juridiquement saisis, puisque on ne sait pas trop qui sont les bénéficiaires, qui sont les destinataires, qu'est-ce qu'ils recouvrent. Et c'est là où je crois qu'il y a un apport fondamental de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et aussi de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pour définir ces droits qui sont des droits en devenir. Puisque finalement, pour être un droit de l'homme, il faut avoir une garantie analogue au niveau international qui consacre ce droit. Et je crois que le système africain de protection est vraiment à l'avant-garde de cette accommodation du personnalisme et du collectivisme pour pouvoir ancrer des droits nouveaux dans le système juridique, en définissant ce que c'est qu'un peuple et en permettant finalement au droit à l'autodétermination, au droit à l'égalité des peuples, au droit à la disposition des ressources et des richesses naturelles et aussi au droit à l'environnement sain d'être des droits qui peuvent être justiciables, qui peuvent être protégés, pour lesquels on pourrait aller devant les tribunaux avec une vision claire des obligations qui sont imposées à la fois aux États, mais aussi aux entreprises.
Donc l'Afrique invente quelque chose en particulier.
L'Afrique est vraiment innovante et elle apporte énormément sur la définition évolutive, toujours en mouvement, hein, des droits de l'homme.
Mais beaucoup de citoyens africains, quel que soit le pays du continent, se posent la question que nous a envoyé Lai Touré, qui nous écoute à Dakar, et lui dit, est-ce qu'on pourra espérer un jour vivre avec tous nos droits en Afrique ?
Alors, c'est un idéal commun à tous les peuples, hein. Donc nous espérons tous, mais en Afrique comme en Europe, les droits ne sont pas, malheureusement, ne sont pas respectés en tout lieu et en tout temps. Ce qu'on peut regretter s'agissant du continent africain, c'est que seulement 8 États ont accepté la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui limite vraiment son action. Alors, elle fait des arrêts qui sont remarquables sur le plan du droit, très innovants, très audacieux, et pourtant, il y a peu d'États qui peuvent les appliquer, et donc l'effectivité de ce système est finalement en but toujours au même problème, c'est-à-dire que font les États ? Est-ce que les États jouent le jeu ? L'adhésion universelle aux droits de l'homme, c'est une chose. Après, donner les moyens juridiques pour que chacun des citoyens puisse se saisir de leurs droits, aller devant les tribunaux et les faire valoir, c'en est une autre. Et malheureusement, ça repose sur le bon vouloir des États.
Merci Magali Lafourcade. Vous avez donc écrit un que sais-je prestigieuse collection sur les droits de l'homme. Donc c'est le numéro 4146 précisément. Je le recommande. C'est une lecture à la fois édifiante et facile, ce qui est un exploit pour une telle matière. Merci en tout cas d'être venu nous voir.
Merci infiniment pour votre invitation.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain, dimanche 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel pour le magazine Idée. Et nous serons en compagnie de Ngonefal, la commissaire de la saison Africa 2020, cette grande opération d'échange culturel, scientifique, philosophique même, entre l'Afrique et la France. Dans 2 ans, la France vivra alors à l'heure de l'Afrique, tous nous l'espérons. Idée demain dimanche, 17h10, donc heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.